or CKUT's Community News Department at 514-448-4041, extension 6788, or news at ckut.ca. Stay tuned for Hearst Day.
Le matin, mon cadran est à CKUT. Pendant le déjeuner, j'écoute CKUT. En me rendant au travail, j'écoute CKUT.
Pourquoi quelques urlaires veulent tout casser?
Au travail, on écoute tous CKUT. Pendant que je prépare le souper, c'est CKUT. Plus tard, pour relaxer, je syntonise CKUT. Et dans mon lit, j'écoute encore CKUT. CKUT! CKUT! Je capote sur toi.
Tout ça au 90.3 FM à Montréal.
Allô à toutes avec un crisse de gros E à cause que c'est toujours bien la base d'essayer d'inclure tout le monde.
La très bienvenue dans ce nouvel épisode de la tant attendue deuxième saison de votre podcast féministe interrégional et le plus intersectionnel possible préféré. À chaque épisode, on se garoche à la vitesse où on se revire de bord quand on se rend compte qu'on a oublié notre masque dans un thème qui nous touche puis qui nous intéresse vivement. On l'observe avec nos lunettes nerd radicales de presque trentenaire ben à bout de ce monde qu'on travaille à chimer à grands coups de podcast.
Dans le fond, là, tout ou pantoute, c'est comme la machine à café full fancy dans la cuisine du bureau où tu passes la moitié de tes journées de travail pour passer le temps.
Aujourd'hui, on parle d'entrepreneuriat. On commence notre mini-série de deux épisodes sur le sujet avec une entrevue avec Gabriela Quinte, qui est une de nos entrepreneurs préférées du monde entier. Puis, ben, on part sur toutes sortes de chires de notre bord, nous autres aussi, évidemment.
On est en direct de Villeray à Montréal et de Trois-Pistoles dans le bas du fleuve.
Je m'appelle Alexandra Turgeon.
Moi, Laurie Perron.
Vous écoutez Tout ou pas tout.
Tout ou pas tout.
Allô à toutes avec un crisse de gros E. Saviez-vous que vous pouvez vous abonner au Patreon de Toutes Pantoutes en plus de vous sentir vraiment cool parce que vous avez aidé un projet médiatique indépendant féministe mené par des femmes puis des personnes non-binaires? Déjà, c'est pas pire. En plus, vous allez avoir accès à des suppléments. Nos entrevues complètes avec les invités, des surprises secrètes envoyées direct chez vous par la malle, puis une fois par mois, un stream en direct avec nous autres. Tous les détails au patreon.com/toutoupantoutes. OK, merci d'être là. On retourne à l'épisode.
L'entrevue qu'on vous présente cette semaine a été enregistrée au printemps dernier, mais on la trouve encore full pertinente. Ça demande quand même quelques éclaircissements parce que la librairie Racine, qui venait alors de déménager, est maintenant très bien installée sur la Plaza Saint-Hubert. Et Gabriela et moi, malheureusement, ne sommes plus voisines. Ceci étant dit, c'est encore vrai que Gabriela Quinte est brillante en crise puis que les nouveaux locaux de sa librairie valent le détour dès que la pandémie voudra bien vous laisser y retourner, bien sûr. Il y a aussi de la nouveauté dans les projets de son côté. Je vais vous mettre en note d'épisode le lien vers Toulhoud en parle, une plateforme où les témoignages, les histoires et les cultures de personnes racisées sont mises de l'avant, dans laquelle plusieurs opinions, dont le sien et celui de Thierry Lindor, qui co-anime ensemble des capsules vidéo. C'est ça. Tout ceci étant dit, je ferme ma douce trappe parce que c'est l'heure d'écouter la pro. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le segment artistique de Toutes ou Pantoutes. Aujourd'hui, je reçois Gabriela Quinte, qui est propriétaire et fondatrice de la librairie Racine, qui avait autrefois pignon sur rue dans Montréal-Nord, mais qui vient de déménager sur la Plaza Saint-Hubert et qui a également une boutique en ligne tout à fait remplie de joyaux. Gabriela est également bien connue dans le milieu militant puisqu'elle milite contre le racisme depuis plusieurs années. C'est accessoirement aussi ma voisine, mais malgré ça, c'est par les voies de la technologie moderne qu'on se retrouve aujourd'hui, pandémie oblige, après à des heures très tardives suite au coucher de nos bébés respectifs. Alors, bonjour ou bonsoir, Gabriella.
Salut! Merci de m'avoir invitée, chère voisine. Confinement oblige, mais on peut pas se voir sourire, mais on va avoir du fun.
Ça, j'ai aucun doute là-dessus. Avant de commencer, en prenant pour acquis toutes sortes d'affaires, j'ai envie de te demander, toi, est-ce que tu te considères en fait comme une entrepreneure?
Ça m'a pris du temps et jusqu'à maintenant, je commence à l'accepter, mais ça a été difficile pour moi parce que quand je pensais à entrepreneur ou entrepreneuriat, je pensais juste à un type de personne. Tu sais, genre les personnes qui se promènent avec des mallettes d'argent, avec des costumes et qui font des gros deals et qui ont de l'argent, etc. Donc, je sais pas pourquoi j'avais comme un visage figé ou, je sais pas, des préjugés sur ce terme pour finalement comprendre que être entrepreneur, c'est vraiment d'entreprendre des projets puis après d'être rémunéré, d'avoir comme une certaine forme de quelque chose qui te revient. Puis après, quand j'ai pensé à tout le travail que j'ai fait, j'ai réalisé que finalement, j'ai toujours été entrepreneur. Mais là, c'est juste que je suis un peu plus redevable, on va dire, à certaines institutions parce que, bon, là, j'ai un numéro de taxe et j'ai un numéro d'entreprise, etc. Je suis un peu plus legit, mais avant, quand j'organisais des spectacles ou des choses un peu plus comme underground ou en dessous de la table, j'avais quand même certaines notions, on va dire, comme de marketing, de faire des affiches et tout ça. Comme j'agissais quand même d'une façon que tu pourrais dire, que tu pourrais appeler entrepreneuriale, on va dire. Que tu vends des t-shirts et que comme tu sais qui ta clientèle cible pour chaque modèle de t-shirt et tout. J'ai toujours été un peu entrepreneur, mais ce que j'aimais pas, c'est que on mettait toujours les mêmes modèles d'entrepreneurs de l'avant. Donc, je m'identifiais pas à eux. Donc, c'est pour ça que j'avais un peu de réticence quand les premières personnes m'ont commencé à dire que j'étais entrepreneur. J'étais comme, mais c'est parce qu'on met tout le temps les mêmes genres d'entrepreneurs de l'avant, genre les géants qui font pas attention à la terre, à comment leurs choses sont fabriquées, etc., qui sont pas de conscience, qui pensent juste à l'argent. Et j'étais comme, je m'identifiais pas à ça, puis j'étais comme, oh non, je suis pas entrepreneur. Mais finalement, tu sais, il y a tellement de types d'entrepreneuriat puis de personnes entrepreneurs que là, je commence à rencontrer un peu plus de gens puis faire comme, ah, OK. Aussi, tu sais, quand on parle d'entreprise, tu sais, il y a tellement de choses qui sont des entreprises que des fois, on oublie, tu sais, les entreprises, pas juste, tu sais, la personne qui fait des patchs puis qui les vend, c'est quand même un petit gagne-pain, mais comme c'est une petite entreprise quand même. Là.
J'avais sensiblement les mêmes préjugés que toi, fait que je suis contente que tu aies abordé cet angle-là. Je me demandais aussi, qu'est-ce que ça t'a apporté comme liberté, toi, de devenir entrepreneur? Parce qu'on associe beaucoup à l'entrepreneuriat, justement, de nous apporter une infinie liberté. Mais j'ai l'impression que ça doit venir aussi avec son lot de responsabilités puis de contraintes qui peuvent être envahissants pour ta vie privée. Fait que je me demandais, dans le fond, où tu trouves l'équilibre dans tout ça? Puis est-ce que ça t'apporte réellement plus de liberté que de contraintes?
Je dirais oui et non. Parce que c'est sûr qu'au début, je trouvais ça cool, certaines libertés, comme par exemple, disons que la librairie ferme à 5 heures, mais que t'as pas envie de rester jusqu'à 5 heures, puis tu pars à 4h30. Mais t'es libre de faire ce choix-là, t'as pas de boss qui va te chicaner parce que tu dois rester jusqu'à 5 heures, mais tu pars à 4h30. Mais c'est toi qui payes les conséquences si quelqu'un qui arrive à 4h45 puis t'es pas là puis qui trouve ça dommage parce qu'elle est venue de loin, tout ça, tu sais, c'est après les choix que tu prends, ils peuvent avoir des conséquences quand même si t'as pas de patron, on va dire. Mais tu sais, c'est sûr que il y a une plus grande flexibilité, t'as moins de contraintes, mais les premières années, c'est pas vraiment facile. C'est vraiment pas facile. Les premières années, tu mets tout ton temps, ton énergie, puis ça rapporte pas beaucoup. Donc, la liberté, elle est certainement pas financière au départ, mais en même temps, ça dépend. Si je veux dire, à moins que tu aies une idée de génie qui se voit nulle part, mais si tu arrives déjà dans un milieu où tu différencies un peu, mais que tu vas juste venir chercher une part du marché qui va ailleurs, mais la liberté financière, elle vient pas tout de suite, mais t'as certaines libertés que t'as pas, mais t'as certaines libertés que t'aurais pas ailleurs, mais c'est quand même pas aussi libre qu'on le pense.
Personnellement, j'ai une légère tendance anticapitaliste, mais je respecte aussi vraiment beaucoup ce que tu fais, puis ça me passionne. Ça me mindfuck un petit peu et ça m'amène à la prochaine question un peu plus conceptuelle qui est, toi, comment tu perçois le lien entre anticapitalisme et entrepreneuriat? Parce que, tu sais, on n'a pas le choix de... On vit tous dans un système capitaliste, on n'a pas le choix de faire avec. Donc, tout ce qu'on fait s'inscrit dans ce système-là. Mais je me demandais si, avec Racine, puis avec ce que tu fais dans la vie, toi, ce que tu fais, c'est te créer une place dans ce système-là, changer ce système-là, ou au contraire, t'en détacher. C'est un peu flou, mais comment, toi, tu vois ça, le lien entre capitalisme et ton entrepreneuriat?
C'est un peu tout, parce que veux pas, t'sais, comme on doit quand même faire des choix. T'sais, moi, j'aimerais ça qu'il y ait plus d'options, mais à la fin de la journée, je dois travailler, on va dire, pour pouvoir subvenir à mes besoins, parce que j'habite en ville, puis j'ai pas beaucoup d'options pour pouvoir me nourrir et autre chose. Fait que moi, c'est sûr que j'ai choisi l'entrepreneuriat parce que je me dis, mais au moins, tu sais, je sais où je m'approvisionne, je sais que je me fais pas chier dans certaines équipes de travail ou que je me fais pas exploiter ou whatever. Et je sais que je vais essayer de faire les choses autrement. Donc, ça, c'est une des raisons pourquoi j'ai choisi l'entrepreneuriat. Là, c'est sûr que le capitalisme, on sait que ça fonctionne pas. C'est sûr que j'aimerais ça qu'il y ait d'autres alternatives. Je pense qu'on peut la penser ensemble. On peut les penser ensemble, mais pour les entrepreneurs ou futurs entrepreneurs qui sont pas dans avec le capitalisme, mais c'est vraiment de penser à comment on peut faire les choses, mais tout en pensant à la terre, tout en pensant à nos choix, qui se fait exploiter, comment et tout. Parce que, par exemple, disons que toi, t'aimes les fleurs puis tu veux partir en fleuriste, mais il y a certains endroits où que tu peux te procurer tes fleurs pour ton fleuriste où tu sais que ces personnes-là sont exploitées grave. Mais tu peux faire d'autres choix, ou tu sais, c'est une question de choix pour essayer de pas supporter la bête.
Ouais, juste de faire sa place dans la vie puis de faire son chemin sans piler sur personne, mettons.
Ouais, puis choisir d'autres modes organisationnels aussi. Puis montrer que c'est possible de s'organiser puis de, tu sais, des fois il y a des organisations où il n'y a pas de patron, puis les gens sont comme, ah, il n'y a pas de patron. Puis t'es comme, ouais. Tu sais, c'est possible. T'sais. C'est juste montrer aussi qu'il y a d'autres façons de faire les choses.
Ouais, c'est clair. Depuis que tu as lancé la librairie Racine, tu mets vraiment beaucoup de temps puis d'énergie là-dedans, évidemment. Puis je me demande, avec tout le lot de sacrifices que ça implique, qu'est-ce qui fait que ça vaut la peine, puis que tu as la drive de continuer puis de pousser ça toujours plus loin?
Moi, je trouve que ça vaut la peine, puis que je fais ça parce que je trouve que l'histoire de Montréal ou whatever, du Québec, ça s'écrit chaque jour, puis c'est de voir comment moi, en tant que personne, je peux y contribuer. Puis je peux y contribuer en documentant, en écrivant sur les personnes cool que je connais, en en diffusant des histoires, en créant des lieux d'échange, de rassemblement, etc. C'est vraiment comme ma contribution à genre mon environnement, puis à l'histoire qui se crée, puis qui s'écrit chaque jour. C'est vraiment comme ça que je le vois.
Mais dans ton cas, c'est d'autant plus pertinent parce que ta contribution permet la contribution d'artistes vraiment pertinents, puis plein de talents qui valent la peine d'être mis de l'avant. Parce que ta contribution, c'est une plateforme de diffusion pour ces artistes-là. Fait que c'est vraiment exponentiel. Ça pourrait pas être plus pertinent.
Ouais. Mais qu'est-ce qui est cool aussi, c'est que dans beaucoup d'époques, puis comme ça va être le cas pour, admettons, 2020, mais quand tu regardes, mais tu vois que genre plein de personnes cool ou des artistes ou des gens qui changent les choses, mais il y en a beaucoup qui se connaissent, qui se croisent ou qui vont prendre des photos ensemble ou qui vont manger ensemble et tout. Fait que ça aussi, c'est intéressant de documenter, comme par exemple là, la conversation qu'on a, parce que toi aussi, tu fais des choses cool, tu sais. Puis après, dans le futur, ça va être là. Puis il y a des gens qui vont être comme « Ah, ils ont parlé ensemble et tout. » C'est comme, c'est cool aussi de juste laisser sa trace comme ça, puis d'échanger avec d'autres personnes cool qui font des choses.
On pourrait jaser pendant des heures, mais je vais mettre fin à cette discussion pour poursuivre le reste du podcast. Mais merci, ça m'a fait vraiment plaisir de discuter avec toi ce soir.
Merci à toi.
J'invite tous nos auditrices et auditeurs à aller visiter la boutique en ligne de la librairie Racine ou même à aller visiter, en fait, leur boutique sur la Plaza Saint-Hubert. Il faut juste mettre votre masque, évidemment, c'est toujours la pandémie, mais ça vaut la peine d'aller faire un tour. Vous allez pouvoir décoloniser votre bibliothèque et vous procurer des vêtements pour show off à tout le monde que vous êtes en train de le faire. Puis même si vous vous rendez sur place, allez-y en écoutant avec vos écouteurs le podcast Tout ou Pantoute. Comme ça va être d'une pierre deux coups. Yeah! Merci mille fois à Gabriella Quinté. Je me sens vraiment choyée d'avoir pu avoir cette conversation-là avec elle. Alex, toi, qu'est-ce que t'as pensé de tout ça?
J'ai un rapport vraiment ambigu avec l'entrepreneuriat, puis toute la discussion que tu as eue avec Gabriella m'a fait toute rebrasser ça, je vais mettre mon chapeau de nœud en communication pour commencer, pour vous parler.
Ah oui!
Ce chapeau. Pour vous parler de mythologie et de ma théorie sur le fait que l'entrepreneuriat est un mythe. Au Québec en particulièrement, mais en Occident peut-être. En tout cas, j'ai pas fini ma théorie jusque-là. Je veux juste spécifier que je fais la différence entre une personne qui est entrepreneur parce qu'elle est travailleur autonome, mettons, puis qui a fait ses taxes, puis mais qui s'en sac bien de l'aspect business, puis qui est pas animée par faire fleurir son entreprise, puis vraiment un esprit d'entrepreneuriat que je considère pas tant comme des entrepreneurs, mais qui sont comme un peu considérés comme tels dans le système, mettons, économique. Puis les personnes qui ont vraiment comme un rêve, un projet d'entreprise, puis qui sont motivées par l'aspect entrepreneurial, business, gérer une équipe, faire sa place, créer du profit, etc. Je trouve que c'est un peu deux choses différentes, mais qui sont des fois un peu regroupées. Puis en tout cas, vous allez comprendre pourquoi je fais cette différence-là dans ce qui suit. OK. Pourquoi je pense que l'entrepreneuriat, c'est un mythe? C'est parce que j'ai beaucoup lu de ce que a écrit Jacques Ellul, qui est un théoricien de la communication politique. Puis il y a une théorie qu'il a élaborée, qui appelle le mythe moderne. Donc, pour Jacques Ellul, le mythe moderne, c'est un ressort de la propagande ou de la communication politique. Donc, en communication politique, souvent, on veut faire accepter des idées, on veut faire aimer des idées aux gens, puis on veut faire des actions aux gens. Ça peut être de voter, ça peut être d'acheter des choses, ça peut être, je sais pas, de participer à un projet, etc. Ça fait partie des choses qu'on essaye en communication politique de faire approuver des idées, puis de faire des actions aux gens. Donc, une des façons de faire ça, selon Jacques Ellul, c'est de créer puis d'alimenter des mythes modernes. Donc, c'est quoi un mythe moderne? C'est un type de récit où on va véhiculer une espèce d'imaginaire de société idéale. On va véhiculer cet imaginaire-là dans des discours, dans de la publicité, dans les médias, dans la culture populaire, etc. Puis, ça va servir justement à faire adhérer donc les citoyens qui vont écouter ces discours-là, voir ces discours-là, à certaines idées. Puis, Ellul mentionne aussi que les mythes modernes doivent s'actualiser par des actions exemplaires et universelles de nos héros dans une société. Donc, mettons au Québec, puis là, je reviens à l'entrepreneuriat. Tu sais, l'entrepreneuriat, on considère ça comme faisant partie, par exemple, d'une société idéale dans le sens où tout le monde est son propre boss, tout le monde peut partir de rien puis faire beaucoup d'argent, puis des héros qui ont une espèce d'aura entrepreneuriale. Dans notre culture pop, on en a plein. Tu sais, mettons, je pense à Pierre-Carl Péladeau, qui est tellement quelqu'un d'important puis de riche, mais qui est un entrepreneur aussi. Je pense à Véronique Cloutier, qui a un empire médiatique quand même important, puis qui est une personnalité publique, à Julie Snyder, par exemple. Toutes les personnes qui sont Juge au dragon. Donc, c'est un peu des personnes qui sont souvent là, qui sont dans notre imaginaire, puis qui participent à un peu légitimer cette espèce de mythe, finalement, de l'entrepreneuriat comme étant quelque chose de donc bien important, au Québec, en particulièrement dans notre société, puis de donc bien idéal, finalement.
Oui, puis on spécifie que c'est pas nos héros à nous, là. C'est les héros mythologiques de la société.
Tu fais bien de le préciser. Oui, on n'a pas de petits macarons picapés, personne chez nous. Puis, qu'est-ce que ça fait tout ça? C'est que c'est rendu tellement ancré comme en nous, à force d'avoir des représentations positives par rapport à un thème. Mais je parle de l'entrepreneuriat, mais ça peut être, le sport, ça peut être l'armée, ça peut être le travail, ça peut être l'égalité entre les hommes et les femmes, des valeurs un peu ou des espèces de grands principes qu'on a l'impression qui cimentent notre société. Puis ça fait que ces choses-là sont devenues tellement ancrées qu'on pense que c'est comme si éventuellement on pense que c'est nous-mêmes qui a ces idées-là, puis on pense qu'on a vraiment envie de faire ça parce que on trouve ça nice, pas parce qu'on se fait pitcher des images par rapport à ça à longueur de journée. Fait que ça devient un peu insidieux qu'on adhère finalement à ces idées-là, puis qu'on porte des actions, on pose des actions en lien avec ces messages-là.
C'est vraiment intéressant.
Ouais, je suis pas en train de dire qu'on est toutes des espèces d'éponges puis qu'on fait juste comme absorber tout ce qu'on nous lance, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'une mythologie un peu de l'entrepreneuriat dans notre société.
Vraiment, puis c'est drôle parce que je jasais récemment avec ma collègue du fait que, bon, elle avait l'impression que la publicité, ça l'atteignait pas nécessairement, ouais. Qu'elle était pas influencée par la publicité.
Ouais.
Puis moi, je me rendais compte que le type de publicité qui m'influence, c'est vraiment le placement de produits dans les œuvres de fiction, puis ça va vraiment beaucoup avec la création d'un mythe, comme tu es en train de dire, tu sais, moi, je pense, tu sais, j'ai le goût de boire du whisky parce que j'ai le kick sur Jessica Jones, mais j'en buvais pas de whisky. Puis c'est ça, c'est...
Non, vraiment. Puis tu sais, mettons qu'on regarde des séries, je sais pas, comme Suits, comme Mad Men, comme... Tu sais, des séries où c'est comme positif d'être entrepreneur, d'avoir une business, de gérer tes affaires, puis c'est comme ça qui... Ça vient avec un certain statut social, puis c'est comme un statut social auquel on a le goût de participer, puis c'est comme un projet de société, c'est ça qui devient comme partagé un peu par tout le monde grâce à toutes ces représentations-là. Puis j'ai des stats un peu par rapport à l'entrepreneuriat au Québec. En 2017, les statistiques étaient que une personne sur quatre disait qu'elle avait l'intention un jour de créer ou de reprendre une entreprise, selon l'indice entrepreneurial québécois de 2017. C'est quand même fou, là. Une personne sur quatre se dit « Moi, dans la vie, je vais me partir une business à un moment donné. » Peu importe le genre de business. C'est particulièrement marqué chez les 18-34 ans. C'est 41% des 18-34 ans qui ont envie de se partir en business à un moment donné. Puis c'est particulièrement marqué chez les hommes, entre guillemets, qui sont une partie de cet échantillon-là. Je trouve ça intéressant. Puis il y a comme un lien aussi entre le nationalisme puis l'entrepreneuriat. Ça a été beaucoup dans les discours de nos politiciens depuis les années 60, une espèce de fierté nationaliste, entrepreneuriale. Ça l'est beaucoup dans les discours de notre premier ministre en ce moment aussi, mais ça l'est depuis comme la Révolution tranquille ou le Québec Inc. qui était un peu le rêve pour ce pour se démarquer comme nation, puisque c'était une façon de, pour les francophones et québécois de devenir comme indépendants par rapport à d'autres choses. Ça fait vraiment partie de ce qu'on nous envoie comme discours. Puis j'ai l'impression que ça fait partie de cette espèce de mythe de l'entrepreneuriat qu'on reçoit puis qu'on internalise un petit peu. Puis des fois, ça peut nous faire oublier, ben, qu'on est en train de travailler puis qu'on est en train de participer au monde capitaliste puis nous faire comme penser que ben nos boss c'est nos amis, que l'argent c'est le bonheur, puis que je sais pas si tu vois ce que je veux dire un peu, mais c'est comme un espèce de discours de fond qui fait que l'entrepreneuriat c'est comme vraiment important, j'ai l'impression, dans notre société.
Ouais, full, c'est vraiment pertinent. Moi, ça fait un petit bout que j'ai pas fait d'input parental dans nos épisodes, puis j'ai l'impression que c'est un bon timing, hein. Fait que...
Mais ça.
Go! Parce que, bon, quand tu deviens parent, particulièrement quand t'es le parent en congé maternité, il y a un phénomène assez fucked up qui se passe au niveau des algorithmes sur les réseaux sociaux et sur Internet, parce que tu deviens tout à coup la cible de plein de compagnies à tendance pyramidale quand même qui veulent te recruter. J'ai aucune idée si c'est aussi présent chez les gens en congé de paternité, parce que les pubs que j'ai vues semblent vraiment targeter les nouvelles mamans et les futures mamans, parce que ma coloc a déjà toutes ces affaires-là, puis elle accouche dans 3 mois. Puis ils s'en crissent bien de ta réelle identité de genre, mais ça, bon, c'est malheureusement un classique. Vous référez à l'épisode 1 de la saison 2, si vous voulez m'entendre chialer là-dessus. Je le referai pas une deuxième fois. Bref, ça me semble digne de mention dans un épisode sur l'entrepreneuriat, parce que ça fait miroiter la possibilité de, entre guillemets, devenir ta propre boss.
Ouais.
En disant que tu vas te créer une entreprise à ton image, mais au fond, ça implique de faire grandir une compagnie qui n'est pas la tienne,
ouais,
puis qui existe juste dans l'optique de l'enrichissement personnel de ses propriétaires.
Mais oui.
Puis en plus, ça te permet de rester à la maison pour que l'autre parent puisse continuer de faire sa juste part pour le système capitaliste, pour que ça continue de tourner.
Mais oui.
Fait qu'il y a comme quelque chose de twisted là-dedans. Je trouve que ça fait le pont aussi entre l'entrepreneuriat puis l'industrie du wellness dont on parlait l'autre fois, parce que ben toutes ces entreprises-là, ou du moins plusieurs, focus sur le bien-être comme objet de vente, parce que Dieu sait que les parents, c'est ça qu'on veut, le bien-être des autres.
Mais d'ailleurs, ça me fait penser qu'il y a beaucoup de personnes qui nous ont écrit pour nous parler de ça par rapport à nos épisodes sur le wellness. Puis effectivement, il y a beaucoup d'entreprises pyramidales qui vendent des produits de wellness, des huiles essentielles, entre autres. C'est assez flagrant, ouais.
Ouais, c'est un peu épeurant tout ça.
Oui.
Puis comme je comprends l'intérêt, en quelque sorte, tu sais, moi j'ai été représentante avant quand j'étais ado, ma mère l'a fait super longtemps. Dans ma famille, ça a été super utile, tu sais, ça lui a permis de nous acheter des cadeaux de Noël, de continuer de se maquiller quand on avait moins d'argent, tu sais, comme moi aussi ça m'a aidé là-dessus, mais fait que je comprends l'intérêt, je veux pas shamer les amis qui font partie de ça, j'en ai plein d'amis représentantes de plein de compagnies. Mais ce que j'haïs, c'est la fausse représentation.
Ouais.
C'est de vanter ces opportunités-là comme étant se lancer en affaires, alors que c'est devenir employé salarié d'une compagnie de gens que tu vois pas dans le concret.
Ouais. Ah oui, effectivement.
C'est ça. Ouais, puis j'avais envie de poser la question at large aux papas ou aux parents qui sont pas habituellement targetés par les publicités genrées au féminin. Dites-moi là, j'ai aucune idée si le capitalisme essaie de vous sauter dessus de la même façon ou pas. Est-ce que vous avez ces publications-là, ces publicités-là dans vos feeds?
Ou sinon, c'est quoi les publicités que vous avez aussi?
Ouais,
en tant que
parce que
papa?
Ça vient automatiquement quand on cherche un berceau sur Kijiji, là. Fait que je me demande comment qu'ils vous visent. Dites-nous-les, j'ai hâte de savoir.
Ah, moi, je suis jamais targetée par ces affaires-là. C'est vraiment... c'est du bon découpage. C'est bon, découpage de public cible. Ça m'amène à un lien que je voulais faire entre l'entrepreneuriat puis le féminisme, parce que je trouve ça touché, encore une fois. Puis ça fait plein de lien avec ce que tu viens de dire, mais il y a une espèce de... Avec le mythe de l'entrepreneuriat dont je parlais tantôt, il y a une espèce de mythe qui vient avec, qui est comme celui de la Wonder Woman un peu, ou de la... je vais utiliser le mot femme, là, parce que c'est beaucoup ça qui est communiqué, de la femme qui est capable de jongler avec une carrière, avec sa famille, avec une maison qui est tout le temps propre, puis qui est tout le temps super bien décorée. Encore une fois, les Les femmes que je nommais tantôt, là, Véronique Cloutier puis Julie Snyder, ce sont des super bons exemples de cette espèce de femme entrepreneur, mais tout le temps belle, puis tout le temps qui a une famille, puis qui a un mari, puis que, ben là, plus Julie Snyder, on le sait, mais en tout cas. puis...
On est devenu une revue à potins.
Oui, c'est ça, mais mettons pendant un bout. Marie-Mé, maintenant, là, qui a son émission de décoration de maison, en tout cas, ça rentre un peu dans cette espèce de mythologie, puis de personnage, de personne qui est capable de tout faire en même temps, puis tout faire parfaitement, puis qui peut être quand même dommageable pour les personnes qui essayent de juste s'en tirer chez eux, puis que ça va pas bien de main. Puis ça rentre dans l'espèce de mythe aussi néolibéral, super individualiste, de se suffire à soi-même. Tout ça, là, tout ce qui est entrepreneuriat, que tu sais, tu vas être indépendant de fortune, que t'as pas besoin d'un gouvernement ou de structures sociales qui vont prendre soin de toi parce que tu vas en faire de l'argent grâce à seulement ton travail, puis ton temps, puis t'auras pas besoin de personne, puis tu vas être correct. Puis même s'il y a des coupures, par exemple, dans le système de santé ou whatever, ben tu vas être correct, tu sais, tu vas en avoir de l'argent pour te gérer. Fait que tout ça est un peu compliqué, puis c'est ça. Puis je voulais parler un peu du post-féminisme aussi qui me fait un peu penser à tout ça, qui est cette espèce de mouvement qui veut que l'égalité entre les genres, ça c'est atteint, ça c'est beau, puis que dans le fond tout le monde a accès égal au travail, puis que le but c'est que tout le monde puisse travailler autant, puis puisse autant comme avoir des bonnes carrières, avoir des bonnes conditions de travail. Le but c'est pas d'assouplir la société pour que tout le monde soit inclus, mais c'est de lever la barre plus haute pour tout le monde, qu'une certaine partie de la population arrive au même niveau que les hommes cis, puis soit capable de mener une carrière impressionnante, entre guillemets, au même niveau, de travailler 80 heures par semaine, de faire garder leurs enfants, puis de faire leur ménage par quelqu'un d'autre. Fait que, résultat, plus de monde à bout, puis il y a une espèce de déplacement de la charge invisible vers des personnes encore plus marginalisés, ça normalise, puis ça envenime un peu certaines normes de genre aussi, là, que les femmes, entre guillemets, doivent tout réussir, ce qui est care en plus de leur carrière, alors qu'on n'attend pas nécessairement ça des hommes cis de l'autre côté. Fait que c'est ça, je trouve ça bien compliqué. Je trouve qu'il y a plein d'affaires qui rentrent là-dedans, puis qu'on utilise des fois le féminisme un peu pour, puis l'empowerment pour un peu, c'est ça, le mousser ces valeurs-là, puis dire que la liberté, c'est le succès, puis c'est le succès financier. Puis je suis curieuse de savoir ce que vous en pensez, puis si vous vous sentez un peu, des fois, mélangé par rapport à tout ça aussi dans votre féminisme, puis dans votre envie d'être libre, des fois aussi.
Ouais, full, donnez-nous des feedbacks là-dessus, parce que c'est vraiment intéressant. L'équité puis l'égalité, c'est pas nécessairement d'aller chercher exactement la même affaire que les hommes cis, à quoi ils ont droit, parce que... Les hommes cis blancs, évidemment, parce que des fois, ben, Chris, c'est des affaires qu'on voudrait bien abolir. Fait que
c'est ça.
C'est ça. Vraiment intéressant. Parlez-nous de tout ça. On a le goût de vous jaser aujourd'hui, mais on est rien que toi et deux. Fait que on
c'est
fait
ça. Écrivez-nous, coudon. Puis aussi, mon autre beef par rapport à l'entrepreneuriat, c'est que je trouve que c'est bien dardon pour le monde qui sont au top, les gouvernements puis les dirigeants d'entreprise, d'avoir plus de monde qui sont à leur compte, puis plus de monde qui veulent se lancer en affaires pour toutes sortes de raisons. Tu sais, le fait que par exemple, dans des moments plus difficiles économiquement, des grandes entreprises peuvent, par exemple, mettre des gens à la porte puis engager des pigistes parce que ça leur coûte moins cher de pas avoir des employés qui ont des assurances, qui ont des vacances, etc. C'est bien moins cher de payer quelqu'un qui fait juste le petit contrat puis après t'as fini. Fait qu'il y a comme cet aspect comme social là aussi qui me dérange un peu avec l'entrepreneuriat.
Ouais, clairement. Ben moi. L'idée d'entrepreneuriat, ça me fait vraiment entrer souvent dans une dissonance cognitive parce que je trippe sur plein d'entreprises puis sur les gens qui les startent quand c'est des entreprises qui vont un peu plus vers mes valeurs, mais en même temps, jaillis pour mourir, papa capitalisme, on le sait, c'est notre ennemi juré. Puis, ouais, ça m'a fait vraiment du bien d'en parler avec Gabriella parce que son point de vue était vraiment intéressant. Puis, ça m'a marqué quand elle a parlé de faire des choix pour pas nourrir la bête, mettons. Parce que c'est vraiment l'optique dans laquelle je reconnais les entreprises que j'aime. Je trouve qu'ils tendent tout un peu vers ça. Puis souvent, ça se passe, comme elle disait, par la conscience environnementale et éthique au niveau de l'approvisionnement ou des modes d'organisation. Je dérape aussi de mon bord là, sur les anecdotes personnelles, mais je ne sais pas comment elle a fait pour savoir que mon rêve d'envie, c'était d'être fleuriste, mais vu qu'elle en a parlé, c'est dit officiellement. Ça m'est vraiment venu souvent dans la tête comme projet. Puis un des bugs que j'avais, c'est le fait que l'industrie des fleurs coupées, c'est zéro écologique. C'est vraiment pas logique. Là. Ça implique plein de pesticides, d'engrais chimiques, de teintures, de l'importation. Bref, c'est plein d'affaires que je ne serais pas prête à endosser, mais il y a des gens qui y ont pensé, puis il y a des gens qui le font éthiquement, avec des fleurs bio. Watchez les notes de l'épisode, je vais vous les mettre parce que j'aime ça encourager les projets qui valent la peine. Yeah. Mais où je veux en venir, c'est que, en tant que consommatrice, dès que j'atteins le seuil de revenu où je peux me permettre de choisir, ce qui n'est pas toujours le cas, j'en conviens, ben, j'ai un certain devoir de choisir d'encourager les entrepreneurs qui partagent mes valeurs. Puis si dans le big picture, ça ne mène pas à mort du capitalisme, ben, au moins, ça contribuera au florissement puis à la survie de projets plus éthiques puis de personnes bien intentionnées sans enrichir Walmart puis McDo. Mais encore là, tu sais, on l'a pas toujours ce choix-là. Il y a des années où j'ai dumpsté ma bouffe dans les poubelles. Je pouvais pas l'encourager, le petit fromager bio, ben même non. Si je trouve que c'est plus logique. Puis il y a vraiment, tu sais, exactement, tout revient un peu à ce que tu disais au début, l'idée du mythe moderne, tu sais. C'est impossible, on y arrive pas. La mythologie, c'est aussi ça, c'est pas quelque chose nécessairement qui est ancré dans le réel tant que ça.
Non.
Puis ben... c'est pas nouveau, là, le système capitaliste. Ça fait un peu cet effet-là.
Oui, c'est comme un peu partout, puis c'est tentaculaire. Puis je trouve ça full important que tu dis de on n'a pas tous les moyens de faire des choix avec lesquels on est à l'aise, comme éthiquement. C'est complètement comme fou qu'on puisse pas être en paix avec nos choix de consommation parce qu'on est pauvre. Comme ça n'a aucun bon sens, mais, ouais. Mais c'est ça la réalité. Puis. Tu sais, des alternatives bolées comme celle de Gabriella, moi, en l'écoutant parler, je me disais, hey, quelle charge quand même pour une entrepreneur de faire tous ces choix éthiques-là, parce que, tu sais, c'est bien sûr que tu vas faire plus de produits, mettons comme fleuriste, c'est bien sûr que tu vas faire plus de profit si tu vas pas chercher tes fleurs à une source qui est éthique puis qui utilise pas de pesticides, etc. Tu sais, mettons comme artiste qui fait de la sérigraphie sur des t-shirts. Si tu vas chercher tes t-shirts en Chine avec des employés sous-payés, tu vas faire bien plus de profit. Fait que si tu veux être un entrepreneur qui est complètement éthique puis qui respecte ses propres valeurs, qui est en accord avec ses propres valeurs puis qui veut pas nourrir la bête, ben tu pars avec un pas de recul dans la compétition avec les autres, puis éventuellement ben ça peut ne pas marcher pour certains entrepreneurs pour ces raisons-là, parce qu'ils veulent être en accord avec leurs valeurs. Puis je trouve ça tough. Je trouve que c'est beaucoup de responsabilités.
Oui, vraiment. Puis ton exemple d'artiste de sérigraphie, c'est vraiment intéressant parce que dans le milieu des arts, c'est un milieu que je connais vraiment beaucoup, fait que c'est sûr que je suis plus à l'aise d'en parler, mais on n'a pas un fonds de roulement incroyable de prime abord habituellement, là, à moins d'être soutenu par des maisons de disques ou par d'autres compagnies, tu sais. Puis, ben, c'est de partir avec un pied de recul, mais c'est aussi possiblement de se tirer dans le pied puis de faire que tu seras même pas capable de les produire parce qu'on souvent on l'a pas cet argent-là de base d'aller chercher les produits éthiques sur lesquels travailler. Ouais. Ou faut que tu trouves des alternatives comme voler la base au Dollarama parce que c'est plus éthique de la voler que de la payer. Là, je suis pas en train de dire que nous on fait ça.
Ben non.
Je le dis pas.
Voyons donc.
Tu sais, en tout cas, faut chercher des solutions éthiques. Mais je me le demande anyway si l'art puis tout ce qu'on fait qui ressemble à des valeurs entrepreneuriales, disons, ou des compétences entrepreneuriales pour mettre de l'avant des projets artistiques. Comme Gabriella en a parlé, en fait, là, vendre des produits dérivés, publiciser les shows, faire des flyers, faire des affiches, aller dans d'autres shows pour faire du PR. Est-ce que c'est de l'entrepreneuriat, au final, si tu le fais pour quelque chose sans aucune attente que ça te rapporte ou en sachant que ça ne rapportera pas? En tout cas, je me demande, tu sais, c'est quoi la ligne? C'est qu'est-ce qui est de l'entrepreneuriat, puis pas? C'est tout le temps tough à définir, tu sais.
Oui, c'est full intéressant, puis ça me fait penser à la discussion que j'ai eue avec Chloé Landreville dans notre épisode précédent. Si vous ne l'avez pas écouté, allez voir ça. Que peu importe ce que tu fais, même si ce n'est pas dans des buts de profit immense, il y a comme un peu les injonctions de performance. Tu sais, je sais pas si on peut appeler ça de l'entrepreneuriat ou juste comme des espèces de tâches que tu es obligé de faire pour être performant dans un monde compétitif, mettons, que tu n'as pas le choix si tu veux au moins survivre en tant que projet de faire, c'est-à-dire tu sais, ton image de marque, c'est-à-dire des médias sociaux, c'est-à-dire du marketing. C'est des injonctions de performance qui sont comme là, puis on a de la difficulté à s'en débarrasser, peu importe le projet, je pense.
Clairement. Puis des fois, juste pour pas que nos projets nous ruinent, tu sais. Mm. Comme on a des jobs, des side jobs pour juste être capable de manger, payer notre loyer, mais à un moment donné, le matériel dont on a besoin pour créer, ben il va falloir se le procurer aussi. Mm. Puis en tout cas, c'est un cercle vicieux.
On n'a pas choisi le monde dans lequel on vit, mais on essaie de pas nourrir la bête.
C'est ça qu'on retient de cet épisode.
C'est ce qui va conclure cet épisode de Toutes Pantoutes sur l'entrepreneuriat. On espère que on a pu alimenter votre réflexion, puis on est vraiment curieuse de savoir ce que tout ça vous évoque. Si vous vous tricotez un branding entre deux bonifications de votre profil LinkedIn, de votre côté.
On a le goût de vous entendre puis de vous lire, fait que gênez-vous pas pour nous écrire sur nos médias sociaux. On s'appelle Tout ou Pantoute, on est sur Instagram, sur Facebook, on a même un courriel, tout avec un S ou pantoute, @commercial.gmail.com. Voilà.
Aussi, on vous invite à nous écrire si vous pensez qu'on peut s'améliorer d'une quelconque manière. C'est quoi nos angles morts? Qui en oublie? Qu'est-ce qu'on oublie? N'hésitez pas à nous aider à être meilleurs, on est pleine de bonne volonté puis on sait qu'on n'est pas parfaite.
Et si vous avez une passion, un talent, une expertise, puis que vous aimeriez partager ça avec le monde entier via notre réseau de transmission satellite à la fine pointe de la technologie, écrivez-nous. On veut vous connaître. On est toujours à la recherche de nouveaux sujets et de personnes de tous horizons pour en parler avec nous en ondes. On veut sortir de nos cercles. Aidez-nous!
SOS! Merci infiniment à Gabriella Kente pour ton temps. Checkez les notes de l'épisode pour suivre tous ces projets toujours plus pertinents les uns que les autres. Merci à Audrey Laperrière pour notre visuel. Merci à Marie-Ève Boisvert pour le montage. Puis merci à vous d'avoir joué avec nous. Bye bye!
Bye bye!
Vous écoutez CKUT.
Allez chercher le sapin. Décorer le sapin, faire la liste des cadeaux, inviter la belle famille, aller porter des denrées. Pensez à la tarte au sucre pour le party du bureau. Planifier les repas du réveillon, décorer la maison, accrocher les bas de Noël, emballer les cadeaux, demander à Lucas de faire sa chambre, faire l'épicerie, faire des biscuits. Ah, aller se faire vacciner!
Les fêtes arrivent vite. Faites-vous vacciner contre la COVID-19 maintenant pour être protégé à temps. Un message du gouvernement du Québec.
Join Cinema Politica for our fall screening series. Monday, November 21st, Primera, a film on the Chilean uprising. Monday, November 28th, The Clabona Keepers, looking at indigenous land and water defenders on the west coast of Turtle Island. Monday, December 5th, Into the Weeds, a celebrated documentary that looks at the struggle against multinational pesticide company Monsanto. These films show on Mondays at 7 p.m. in room H110 at Concordia University, 1455 de Maisonneuve West, Metro Guy Concordia. Info, cinemapolitica.org. These screenings are a CKUT Radio co-presentation.
Prison Radio Show est une émission radio avec des nouvelles pour les prisonnières et leurs alliés et familles. L'émission cherche à confronter l'invisibilité des prisons et la lutte des prisonnières en se concentrant sur la racine de l'incarcération, de la police et de la criminalisation. Nous sommes dédiés à des programmes qui collaborent directement avec des personnes actuellement incarcérées. Dans cet esprit, nous aimerions vous faire savoir qu'on a une ligne téléphonique pour les prisonnières et leurs amis et familles. Vous pouvez nous appeler Collect de la prison de Bordeaux et de la prison Rivière-des-Prairies en composant le numéro 514-8 514-876 3748. Encore une fois, c'est 514-876-3748 pour les appels collectes. On a aussi un numéro normal qui est 438-337-8423. N'hésitez pas à appeler ce numéro et à nous laisser un message avec des nouvelles à partager sur l'émission ou un message audio pour vos proches à l'intérieur.
In the aftermath of her American and European tours, Myriam Gendron is coming home to Montreal with a single show at Cabaret La Tulipe on Thursday, December 8th. Come discover why tasteful musicians like Kurt Weill, Will Oldham, Bill Callahan admire Gendron's songs and stage presence. Myriam will share the evening with the dazzling fingerpicking of the great Glenn Jones. Tickets are on sale online. Don't miss this one. A Heavy Trip and CKUT co-presentation.
C'était une jeune fille. I'm not here to be your helper.
Cœur à cœur avec toi, CKUT 90,3 FM. CKUT, heart to heart with you.
I went to residential school. I was just 8 years old.
Gayla Kassla. My name is Gennarji O'Sullivan of the Tlaalitsis Nation, originally from Turner Island. You're listening to Window, exploring the legacy of Indian residential schools.
Our next speaker here is Viola Thomas. She is also a residential school survivor.
Part of our obligation at where I work with the Truth and Reconciliation Commission of Canada is to inform Canadians on the truth. But I believe that as more Canadian people understand that this was Canadian law and Canadian policy, and that Canadians need to take responsibility for their shared history. I also believe that Canadians have a responsibility to resonate reconciliation with the First Peoples of this country. And what did we learn when we went to the school? We learned how to be bullies, how to be mean to each other, how not to love, how not to feel a great sense of pride of who you are and where you come from. I learned about racism, and I didn't know what that was. I really didn't know what racism was. I learned about sexism, and as a young girl, I didn't know about sexism. There were many forms of abuse, not just the physical, but the intellectual abuse. To always be reminded that you're stupid and that you're nobody. To be told by your teachers and by the folks from the church that you're a savage, you're a squaw. And I just want to close with one of my heroes, a woman by the name of Winona LaDuke. And I offer this to all of our brothers and sisters who were abducted to residential schools. And I offer this with a good heart to non-Indigenous people so that they will pick up the torch. And this is what she says. There is no social change fairy. There is only change made by the hands of individuals.
You have just heard At Window exploring the legacy of Indian residential schools. Both my mother and I attended St. Michael's Residential School in Alert Bay, BC. This is a part of a larger project called Resonating Reconciliation that engages community radio as a tool to help define what reconciliation is. Resonating Reconciliation is meant to help reconcile all Canadians to their shared history. This is the work of the National Campus and Community Radio Association, the Red Jam Slam Society, and this station. Resonating Reconciliation is also supported by the Indian Residential School Survivor Society and is funded by the Truth and Reconciliation Commission. To hear more, go to www.ncra.ca/resonating.
Well, this is not the typical Amandla music that you're so used to as we open our show, and that's because this week this show is curated by Feroz Manji of Daraja Press. And as most of you know by now, a couple of times a month now, we have other people curating the show, Tena Gusey in Cape Town out of Manga Bay Media, and Feroz Manji this week. The only reason we're intervening before Feroz kicks in is just to explain that Feroz is having a roundtable discussion of a book that he just recently published called Matare, an Urban Bastion of Anti-Oppression Struggle in Kenya. And one of the people on the roundtable, unfortunately, the quality of the recording was not good enough for radio. It was very hard to understand her. So I had to edit most of what she said out, but we want to give her her due recognition. It's Warimu Gatimba, and she has written a review of the book that you can find on the Daraja Press website. So I encourage you to go to that, because much of, or part of what she had to say that I had to edit out is in her written book review. So Daraja Press, D-A-R-A-J-A